Terre, le 18-20.
La nouvelle assemblée territoriale de la Corse, élue début décembre, a fait sa rentrée cet après-midi à Ajaccio. Je vous rappelle que les électeurs de l'île ont désigné 63 représentants dans cette nouvelle collectivité territoriale unique, fusionnant dans une même institution trois entités préexistantes. Les nationalistes ont triomphé, ils ont la majorité absolue, 41 sièges sur 63. Quels sont leurs objectifs? Que pensez-vous de la stratégie des nationalistes qui ont troqué les armes contre les urnes? Autonomistes, indépendantistes, quelle différence? Les nationalistes veulent une Corse émancipée? Que recouvre ce mot? Comment surmonter la défiance envers Paris? Comment l'État français va agir face à ce succès des nationalistes lors de ce scrutin de décembre dernier? Nous attendons vos questions au standard du téléphone sonne. Nos invités pour vous répondre, dans les locaux de la nouvelle collectivité territoriale de Corse à Ajaccio, Jean-Guy Talamoni, le dirigeant indépendantiste élu cet après-midi président de l'Assemblée de cette collectivité. Il est le président de ce Parlement corse. À ses côtés, Cyril Graziani, journaliste politique à France Inter, notre envoyé spécial pour suivre le début de cette nouvelle institution corse. Merci à Georges Otto qui assure cette liaison. Autre invité, François Tati. Il est président de la communauté d'agglomération de Bastia, opposant aux nationalistes. Il se trouve dans les studios de nos amis de France Bleu RCFM à Bastia. Et puis dans ce studio, à mes côtés, Jérôme Fourquet, politologue et directeur du département opinion de l'IFOP. Il vient de publier « La nouvelle question Corse, nationalisme, clanisme, immigration » aux éditions de l'Aube.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Premier appel, Paul. Bonsoir, Paul.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez du Gers, je crois.
Exactement.
Votre question, nos invités vous écoutent.
Écoutez, je ne voudrais pas mourir idiot. Et donc, je voudrais savoir quelle est la nuance entre indépendance et autonomie.
Alors,
s'il vous plaît.
Indépendance et autonomie, qui veut répondre? François Tati.
Écoutez, bonsoir à tous. Merci de votre invitation tout d'abord à cette émission toujours très intéressante. Alors a priori, l'indépendance, c'est la formation d'un nouvel État, indépendant donc de la France, si la Corse devenait indépendante. Et l'autonomie, c'est plutôt l'organisation de pouvoirs locaux très avancés, toujours dans le cadre en revanche du maintien de la Corse au sein de la France, au sein de l'État national. Voilà, la grande fracture. Ces termes d'autonomie recouvrent des réalités très différentes selon le niveau, la nature des compétences qui sont transférées.
Jérôme Fourquet, sur ce point.
Oui, alors il y a effectivement cette différence de définition. Il y a une différence aussi de calendrier, hein, puisque les différents acteurs n'ont pas le même agenda. Gilles Simeoni, pendant la campagne, avait mis beaucoup d'ardeur à souligner le fait qu'il y avait une différence fondamentale entre la situation qui prévalait aujourd'hui en Corse et celle qui prévalait en Catalogne, en disant que son objectif à lui était de construire, développer une société corse qui aurait davantage d'autonomie. Et puis Jean-Guy Talamoni, qui est sur le plateau ce soir, lui a comme objectif affiché à plus long terme un projet clairement indépendantiste.
Jean-Guy Talamoni devrait nous rejoindre, il est en route. Cyril Graziani, vous êtes là, dans les bureaux de cette collectivité territoriale de Corse, Ajaccio. Bonsoir Cyril.
Bonsoir, je suis là effectivement. Alors je vais excuser, on va dire ça comme ça, Jean-Guy Talamoni qui est encore dans l'hémicycle puisque le discours de Gilles Simeoni vient de se terminer et les élus vont prêter serment dans quelques instants. Il semblerait qu'ils prêtent serment, comme ils l'avaient fait il y a 2 ans, sur un livre, La Justification. Ils vont prêter serment donc tous ensemble, en cercle.
Cyril, question.
C'est un procédé qui avait fait couler beaucoup d'encre.
Dans le prolongement de la question de cet auditeur, les nationalistes qui ont la majorité absolue dans cette nouvelle collectivité territoriale, ils ne veulent pas l'indépendance pour l'instant. Ils réclament l'autonomie et des mesures précises d'autonomie.
La difficulté que va rencontrer Gilles Simeoni, qui lui est un autonomiste dit modéré, c'est de savoir comment il va pouvoir canaliser la poussée des élus qui sont indépendantistes. Le ratio, c'est 2/3 d'autonomistes, 1/3 d'indépendantistes. Mais comment lui, en tant que président de l'exécutif, va réussir à canaliser ses velléités d'indépendance? C'est ça la question et c'est ça qu'il va falloir observer au cours des prochains mois.
Mais je veux dire, les indépendantistes, ils s'imaginent assez fort pour se passer, là, maintenant, des finances de l'État français, des emplois de l'État français. Cyril Graziani?
Non, ils sont conscients d'une chose. On parlait tout à l'heure de la Catalogne. D'un point de vue économique, si on veut se résumer juste à l'économie, la Catalogne, ça représente à peu près 20-22% du PIB de l'Espagne. La Corse, aujourd'hui, c'est 0,5% du PIB. Et ça, les indépendantistes, ils en sont conscients. Et c'est d'ailleurs pour ça que cet après-midi, Jean-Guy Talamogne a parlé de l'autodétermination. L'autodétermination, c'est quoi? C'est que dans 15 ans, on dira aux Corses, est-ce que vous êtes prêts à vous affranchir de l'État français?
François Tati, président de la communauté d'agglomération de Bastia, sur ce point, l'indépendance de la Corse.
Alors, tout à l'heure, j'ai fait une réponse très, très lapidaire et un peu juridique. La réalité, effectivement, est beaucoup plus complexe. Et aujourd'hui, on travaille sur plusieurs plans. Et c'est bien la difficulté que nous avons, nous, opposants à l'indépendance, à pouvoir nous inscrire dans un débat concret. Pendant toute la campagne électorale qui a amené les nationalistes à avoir une majorité écrasante, la question de l'indépendance n'a pas été mise sur la table. Mais auparavant, dans leur contrat de mandature qui a précédé la campagne électorale, il a bien été décidé et acté et rendu public l'idée qu'effectivement, il y aurait une première phase d'autonomie de plein exercice, comme vient de le rappeler Cyril Graziani, suivie d'une demande d'autodétermination, c'est-à-dire la question posée aux Corses d'avoir à choisir entre le maintien au sein de l'ensemble national ou la séparation. Et donc toute la difficulté de cet exercice pour les Corses, c'est de savoir que nous avons une bombe à retardement qui est amorcée et que nous allons travailler dans le cadre d'une transfert de compétences, à une autonomie qui va nous amener, justement, demain, à être dans cette situation. Nous savons que la question de l'autodétermination, puisque nous avons l'exemple de la Catalogne, qui, hélas, nous fournit un certain nombre d'informations qui nous permettent de dire qu'effectivement, c'est une situation qui est très préjudiciable à l'ensemble des citoyens, à l'économie notamment. Savoir que, dans un délai qui n'est pas encore déterminé, on risque d'avoir un changement aussi brutal, quelle que soit la position que l'on a, est une catastrophe au plan économique. Des investisseurs ou le peu de personnes qui croient encore à l'avenir de cette région vont fuir, ne vont pas rester pour investir dans un territoire qui risque de décliner vers la pauvreté et vers, je dirais, la difficulté économique. Donc la question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas de combattre l'indépendance en tant que telle aujourd'hui, mais de combattre l'inscription dans un processus qui va nous y amener et nous amener à nous poser cette question de l'autodétermination.
Jérôme Fourquet, je rappelle, politologue et directeur du département opinion de l'IFOP, vous étudiez les opinions publiques en Corse. Cette idée d'indépendance, elle mobilise vraiment? Elle n'est pas majoritaire.
Elle est très loin d'être majoritaire et comme il a été rappelé, les nationalistes n'ont pas fait campagne. Oui. Ils se sont bien gardés de faire campagne sur ce slogan et sur cet objectif politique, même si là où il y a une ambiguïté, c'est comme ce que M. Tati vient d'expliquer, ils s'inscrivent sur un schéma relativement long. Hein, et leur victoire, 56% au deuxième tour des élections régionales, elle doit être aussi replacée dans une perspective historique. Lors des dernières élections régionales, ils ont gagné avec 35% des voix seulement. Donc le temps, quelque part, travaille pour eux, leurs idées se diffusent. Et aujourd'hui, leur objectif, c'est de développer la Corse, obtenir davantage d'autonomie pour être éventuellement en situation de se présenter devant l'électorat corse d'ici 10 ou 15 ans et proposer cette question.
Marc écoute France Inter, il téléphone seul et veut intervenir, poser une question. Bonsoir Marc, bienvenue.
Oui, bonsoir et d'abord bonne année à tous et merci d'avoir pris ma question. Alors la question est très simple, pourquoi ne pas organiser non pas un référendum d'autodétermination, mais un référendum au niveau national, dans la mesure où en fait on donne un coup de canif à l'intégrité nationale du territoire? Par conséquent, c'est à tous les Français qu'il faut poser la question, et moi en tant que Français, je ne suis pas Corse, hein, mais je considère que effectivement, moi déjà dès aujourd'hui, je vote pour l'indépendance de la Corse. Voilà. Donc, parce que je pense que si on demande simplement aux Corses, ils répondront toujours non. Parce que, quelque part, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour les Corses, je pense qu'il y a une chose, c'est que l'autonomie est quand même quelque part confortable. Et on arrivera même d'ici 15 ans, pas du tout à une autonomie par l'autodétermination. Par contre, par un véritable référendum au niveau national, là, à mon avis, les choses seront très différentes.
Jérôme Fourquet.
Alors là, on a typiquement l'illustration de ce qu'on pourrait appeler la jurisprudence Raymond Barre, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les nationalistes avancent des revendications, on a un retour de bâton sur le continent de toute une partie de l'opinion publique française qui exprime quelque part un petit peu son agacement en disant voilà, les Corses bénéficient déjà de larges transferts de compétences, de transferts budgétaires, et de la même façon que il n'y a pas de majorité aujourd'hui sur l'île pour être pour l'indépendance, on voit dans les enquêtes d'opinion qu'une minorité importante de nos concitoyens, eh bien, un peu par exaspération, se disent, ben voilà, s'ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent, selon la formule que Raymond Barre avait utilisée en son temps.
Au standard à Nanterre, Henri, bonsoir Henri.
Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez?
Mais très bien, vous êtes le bienvenu sur l'antenne.
Je voulais vous remercier pour vos émissions. Je pensais un petit peu la même chose que Marc, qui vient juste de me précéder. Et je voulais, moi, juste dire que, d'abord, j'aime la Corse, c'est pas uniquement pour y aller en vacances, mais aussi parce que j'y ai de la famille très proche, dans le sud et dans le nord. Et je voulais dire à M. Talamoni que j'avais été profondément choqué par son discours uniquement en Corse. Je pense que la Corse est encore, fait encore partie du territoire français. Il aurait pu, au moins, comme disait M. Simeone ce matin, sur votre antenne, avoir un discours dans les deux langues. On est pour la langue corse, on revendique, on sait que c'est un choix des Corses. Mais je suis profondément choqué aussi quand Monsieur Talamoni parle de la France comme d'un pays ami, comme si la Corse faisait déjà plus partie du territoire. Donc je voulais la réaction en direct de Monsieur Talamoni directement ce soir devant les auditeurs. Merci.
Alors, Cyril Graziani, vous êtes dans les locaux de la nouvelle collectivité territoriale de Corse à Ajaccio. Jean-Guy Talamoni n'est toujours pas près de vous, on l'attend.
Il est toujours dans l'hémicycle.
Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de réactions d'auditeurs au téléphone sonne qui se disent choqués, comme vient de le faire Henri, par ce discours qu'il a prononcé cet après-midi en langue corse. Je lis ce courriel. Pourquoi avez-vous prononcé votre discours d'investiture en Corse? Quel est votre passeport? Vous avez un passeport français. Sur ce point, François Tati, président de la communauté d'agglomération de Bastia, vous êtes choqué par ce discours en langue corse devant cette nouvelle assemblée territoriale?
Alors moi, je voudrais dire deux choses. D'abord, réagir au propos du précédent auditeur qui avait évoqué l'idée d'effectivement de faire un référendum au niveau national pour que effectivement la Corse soit définitivement indépendante. Et c'est ce que nous pouvons craindre, une situation de rejet face aux provocations, face aux attitudes effectivement extrêmes en termes de communication de la frange indépendantiste qui est aux affaires aujourd'hui. Alors, moi, je mets en garde nos concitoyens contre le fait qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui une majorité de gestion qui est nationaliste à l'Assemblée de Corse, que tous les Corses sont favorables à l'indépendance. C'est même une très grande minorité. Mais j'ai bien compris également ce qu'il a dit lorsqu'il a évoqué l'idée que l'autonomie, c'est finalement bien confortable, on demande plus de moyens et on fait peur avec des idées d'indépendance. C'est un peu ça qui était sous-tendu par son propos. C'est toute la difficulté que nous avons aujourd'hui. L'idée, c'est qu'il faut effectivement que nous développions cette île, et pour cela, peut-être faut-il effectivement qu'il y ait un certain nombre de coups de pouce. Mais c'est pour mieux nous inscrire dans l'ensemble national. C'est pour mieux être utile à la France, peut-être, compte tenu notamment d'un certain nombre d'atouts que nous pouvons avoir. Voilà ce que je voulais dire en réponse à cette personne. Contrairement à ce qu'elle a indiqué, il ne faut pas être exaspéré et il ne faut pas avoir cette réaction-là pour nous. Parce que nous, Corses, qui voulons rester français, c'est une situation qui ne peut pas nous convenir. Sur la question de la langue, nous avons à l'Assemblée de Corse deux types de d'intervention. Quand il s'agit de délibération, quand il s'agit d'actes officiels, effectivement, c'est le français qui s'impose, parce que sinon, ce n'est pas légal, parce que nous sommes en France et la langue officielle, c'est le français. En revanche, quand il y a des discours ou des prises de position politiques, eh bien, personne ne peut empêcher un élu de s'exprimer, il pourrait même s'exprimer dans une langue étrangère s'il le souhaitait. Ceci n'a pas de conséquences juridiques. Et la prise de position de Jean-Guy Talamone, qui à laquelle désormais nous sommes tous habitués, est là simplement pour réaffirmer un certain nombre de positions politiques et pour faire en sorte que ces marqueurs politiques continuent à exister. Parce que s'ils ont conquis, et effectivement la question se pose, si les nationalistes ont conquis autant de terrain, c'est qu'ils ont travaillé depuis des années et des années, des décennies, à construire une démarche dans laquelle ils ont pris en main un certain nombre d'outils de socialisation. Dès les plus jeunes âges, l'école, la langue, les questions de festives, un certain nombre de sujets, l'université notamment, qui font qu'aujourd'hui, ils sont dans une quasi-domination culturelle et nous avons de fortes probabilités pour que s'il n'y a pas un coup d'arrêt qui est donné à cette évolution dans ce sens-là, eh bien effectivement, demain, nous soyons en situation de nous retrouver proche de l'indépendance.
Jérôme Fourquet, je rappelle, vous avez publié aux éditions de l'Aube ce livre, La nouvelle question corse, nationalisme, clanisme, immigration. Le clanisme, là aussi, c'est un point très important dans la stratégie des nationalistes, des indépendantistes.
Alors, c'était un adversaire politique revendiqué. Hein, c'est-à-dire que le nationalisme corse, quand il émerge dans les années 70, il se construit contre l'État français, mais contre aussi ses relais. Hein, si on reprend la vulgate nationaliste, contre ces relais sur l'île qui sont des vieilles familles politiques qui tiennent entre leurs mains le jeu politique insulaire depuis des décennies. Or, ce qu'on a constaté...
Et qui sont en lien avec Paris.
Qui sont les relais qui sont en lien. Et ce qu'on a constaté, c'est que progressivement, ces dernières années, eh bien, toutes ces vieilles familles, ce vieux système a implosé ou s'est effondré sous les coups de boutoir des nationalistes. Ça a commencé à Bastia avec la famille Zuccarelli qui a été battue au municipal en 2014. Ensuite, en 2015, aux élections régionales, c'est le système Jacobi, là aussi en Haute-Corse, plutôt de radical de gauche, qui a perdu au profit des nationalistes. Et là, dernièrement, aux législatives, en Corse du Sud, dans la circonscription de Porto-Vec, eh bien, c'est un nationaliste qui a battu Camille de Rocasser, qui était lui aussi...
Mais alors, ça veut dire qu'on a de nouveaux clans, maintenant, les clans Simeoni, Talamoni...
Alors, chacun est libre de son analyse. C'est une crainte d'un certain nombre des adversaires des nationalistes, en disant, voilà, il y a le troisième clan, un nouveau clan qui est en train de se mettre en place. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur cette île de 330 000 habitants, la nouvelle collectivité unique va représenter à peu près 5 000 emplois. C'est des milliers de logements sociaux, c'est des budgets de financement, de subventions, d'investissement sur la route, sur le social. Et donc, c'est des leviers qui sont concentrés dans les mêmes mains, des leviers qui n'ont jamais été aussi nombreux, aussi puissamment concentrés sur un seul pouvoir politique. Et donc, ça peut être aussi une des inquiétudes. Ils ont à la fois le pouvoir électoral et institutionnel, et puis aussi, comme il a été rappelé, une très forte influence culturelle, parce qu'un certain nombre de leurs revendications, de leurs combats, sont aujourd'hui très largement partagés dans la société corse.
Pierre est avec nous. Bonsoir, Pierre.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de quel endroit? Je ne le vois pas sur...
De Laval, assez loin de la Corse. Hein.
Oui.
Plutôt proche de la Bretagne, d'ailleurs.
Oui, Laval.
Voilà, et donc je m'étonne finalement la question de la langue ne soit vue que sous l'angle du marqueur politique et non pas aujourd'hui, en 2018, sous l'angle de la richesse, de la diversité. Si la Bretagne, par exemple, parlait autant sa langue native que la Corse, ça serait un attrait touristique de plus que ça n'est aujourd'hui en Bretagne, où il ne reste plus guère que les galettes et recettes bretonnes. Je veux dire, l'élément de la langue, c'est un élément de richesse et de diversité, surtout à l'heure de la globalisation. Et donc, on peut au contraire remercier les Corses de sauver ce patrimoine, même s'il peut être assimilé à des velléités autonomistes ou indépendantistes, limite peu importe, c'est déjà une source de richesse extraordinaire qui a réussi à être préservée, quoi.
Merci Pierre. Des courriels sur le site de l'émission à propos de l'expression « le peuple corse » des auditeurs nous disent tout simplement « je ne comprends pas ce que c'est que le peuple corse ». Jérôme Fourquet, vous qui étudiez l'opinion publique, le peuple français, alors le peuple corse?
Il y a bien évidemment des spécificités, hein, qui s'expriment sur l'île, mais après là on touche à une notion qui est éminemment politique. On a le même débat en Catalogne, c'est-à-dire qu'il y a un moment un groupe qui se définit comme étant un peuple, et donc c'est une démarche éminemment politique. Donc on comprend que toute une partie de la population continentale rejette ce droit. La question, c'est de savoir, est-ce que en Corse vous avez une majorité de la population qui se sent appartenir à un collectif différent, hein, c'est une question qui est très centrale. On l'a vu en Catalogne avec le fameux référendum dont l'organisation avait été refusée, déniée par Madrid, qui disait voilà, tout ça c'est simplement illégal, et les Catalans répondaient mais nous on ne reconnaît pas la légitimité d'un État central espagnol. On a aujourd'hui une partie de la société corse, toute la question est de savoir combien, qui estime faire nation à part, et donc on voit là qu'on est sur des conflits géopolitiques qui sont tout à fait majeurs.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Cyril Graziani vient de nous signaler que Jean-Guy Talamoni, le nouveau président de l'Assemblée de la nouvelle collectivité territoriale de Corse, vient d'arriver dans le studio que nous avons installé à Ajaccio. Bonsoir, monsieur Talamoni. Avant d'écouter les auditeurs,
bonsoir.
Vous avez dédié votre victoire en tant que président de ce nouveau Parlement corse, vous avez dédié votre victoire aux prisonniers politiques. Ivan Colonna, l'assassin du préfet Erignac, est-il selon vous un prisonnier politique ?
Les prisonniers politiques, ça recouvre effectivement tous les prisonniers pour faits politiques. On peut évidemment être d'un avis ou d'un autre sur certains faits qui sont classés crimes ou délits. La motivation politique ne fait pas de doute, y compris bien entendu pour le commando Erignac. Et je rappelle que s'agissant d'Ivan Colonna, il a toujours protesté de son innocence.
Et que demandez-vous pour Ivan Colonna en tant que nouveau président du Parlement corse ?
Bien, en ce qui concerne notre majorité, nous sommes pour l'amnistie, et nous sommes pour l'amnistie concernant l'ensemble des faits politiques, sans exception. C'est la position de notre majorité. Elle sera exprimée lors des discussions avec Paris, mais il y a un grand nombre de points à discuter.
Mais vous savez que
la question de l'amnistie.
Vous savez que sur ce point, Paris va vous dire hors de question.
Écoutez, vous savez, la France a eu recours à la loi d'amnistie un grand nombre de fois au XXe siècle. Elle l'a fait après la Deuxième Guerre mondiale pour des faits extrêmement graves, de collaboration notamment. Elle l'a fait après la guerre d'Algérie pour des choses très graves et parfois épouvantables. Elle l'a fait également pour la Corse, elle l'a fait pour la Nouvelle-Calédonie. C'est donc un processus juridique qui est tout à fait connu et qui s'impose un peu partout dans le monde lorsqu'un conflit, sous la forme que nous avons connue en Corse, un conflit de cette nature est terminé. Et sous cette forme, le conflit est terminé depuis 2014, le FLNC ayant décidé sa sortie de la clandestinité et n'ayant été démenti par aucun attentat depuis.
Jean-Guy Talamoni, en vous attendant, on a reçu de nombreux appels d'auditeurs qui étaient choqués, certains étaient choqués par votre discours cet après-midi en langue corse. Vous avez fait ce geste par provocation, expliquez-nous.
Certainement pas par provocation. Vous savez, parler corse dans une assemblée corse, lorsque l'on s'exprime devant des élus corses et à travers eux devant les corses qui les
mais
ont élus.
Mais un auditeur, pardonnez-moi,
gauche, c'est naturel.
Un auditeur nous a écrit, Monsieur Talamoni, votre passeport, c'est quelle nationalité ? Vous avez un passeport français ?
Oui, et européen. C'est une question administrative, bien sûr, c'est une question administrative, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'en Corse, la question de la langue corse utilisée par les institutions, cela ne fait absolument pas débat. Il n'y a aucun élu qui le conteste. Il y a d'ailleurs des élus qui sont loin d'être nationalistes, je pense notamment aux élus des Républicains, certains, et non des moindres, comme le maire d'Ajaccio ou le président du groupe à l'Assemblée, Monsieur Mondologne, sont pour la co-officialité du corse et du français. La question linguistique en Corse fait l'objet d'un consensus. Et je dois dire que sur cette question, Paris est assez isolé, y compris en Europe. Parce que vous voyez, on sait que Madrid actuellement n'est pas tellement disposé, bien disposé à l'égard des Catalans, mais Madrid ne conteste pas aux Catalans le droit de parler leur langue dans leur parlement. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a une sensibilité particulière et anachronique de Paris, qui remonte d'ailleurs à la Révolution française et à cette idéologie qui était portée par l'abbé Grégoire et tous ceux qui voulaient éradiquer toute autre langue que le français. Mais la France est très très isolée sur cette question linguistique.
Alors, on va pas refaire le début de l'émission pendant votre absence, mais quand même, il y a eu des questions à propos des indépendantistes, des autonomistes. Vous vous dites indépendantiste, donc vous souhaitez, vous estimez que la Corse indépendante, c'est jouable assez rapidement.
Nous avons un contrat de mandature pour 10 ans avec l'autre courant du nationalisme qui est autonomiste. Et pendant ces 10 ans, il n'y aura pas de processus d'indépendance. Oui. Donc il y a bien entendu de la part des indépendantistes dont je fais partie, il y a une volonté de continuer à plaider pour l'indépendance. Mais si dans 10 ans, dans 15 ans, les Corses se prononcent sur cette question, dans un sens ou dans un autre, ce sera le fait démocratique et personne ne pourra s'y opposer. S'ils votent contre l'indépendance, eh bien les indépendantistes l'accepteront. Vote pour l'indépendance, ceux qui ne sont pas indépendantistes l'accepteront. Je crois que la question c'est que nous sommes indépendantistes et que nous sommes en même temps démocrates, et je crois que le fait démocratique doit toujours s'imposer.
Au standard, Véronique à Vincennes est avec nous. Bonsoir Véronique.
Oui, bonsoir à tous. Je vous remercie pour la qualité de vos émissions.
Et merci.
Cette question s'adresse plus particulièrement à M. Talamone. Bonazère à M. Talamone.
Bonazère à Boy.
Ouais, merci. Je présente juste pour situer. Maman est 100% corse. Elle a eu le mauvais goût d'épouser un continental, donc je suis moitié corse. Et moi aussi, j'ai réitéré l'erreur de maman et j'ai épousé un parisien. Et j'ai un garçon qui n'est que 25% corse. Voilà. Si dans 10 ans, les Corses, qui habitent en Corse, parce que je n'habite pas en Corse, vous l'aurez compris, votent pour l'indépendance de la Corse et que vous mettez en œuvre un certain nombre de choses dont vous avez parlé sur la préférence nationale corse, est-ce que j'aurai le droit d'aller racheter la maison de ma grand-mère en Castaniche? Parce que je ne suis que moitié corse.
Alors, Jean-Guy Talamone voilà. Va vous répondre, Véronique.
Merci.
Question précise, cas concret.
Vous ne l'êtes pas à moitié, vous l'êtes totalement. Vous savez que en Corse, les Corses de manière générale, les nationalistes en particulier, n'ont pas l'habitude de compter le nombre de grands-parents comme cela se faisait sous la France de Vichy. Non, vous êtes totalement corse. Vous avez tous les droits attachés à votre filiation et à votre résidence demain si vous résidez. Nous avons d'ailleurs engagé vers la diaspora les Corses qui ne sont pas dans l'île actuellement, bien sûr, des démarches de façon à les intégrer aux avancées qui existent en Corse. Donc il y a votre question, si vous voulez, elle est, je pense, totalement inutile dans la mesure où vous bénéficierez, vous et vos enfants, exactement des mêmes droits que tous les autres Corses et que les résidents hein, corses qui ne sont pas d'origine corse, mais qui vivent depuis un certain nombre d'années dans l'île. Donc nous avons une conception qui n'est pas une conception ethniciste, mais une conception ouverte du peuple corse communauté de destin, composée de Corses d'origine et de Corses d'adoption. C'est d'ailleurs la position qui avait été retenue par l'Assemblée de Corse depuis déjà 1988. Question... Donc rassurez-vous, ouais. Ce genre de question ne se pose même pas.
Question sur le site de l'émission. On sait que vous réclamez un véritable statut d'autonomie pour la Corse, avec notamment un statut de résident spécifique et un statut fiscal adapté. Sur ces deux notions, les auditeurs aimeraient avoir des explications, Jean-Guy Talamone. D'abord, le statut de résident spécifique.
Alors, le statut de résident, donc ce sont deux choses très différentes. Le statut de résident, c'est pour faire face aujourd'hui à la pléthore de candidats acquéreurs qui viennent de l'extérieur de l'île, qui sont beaucoup plus fortunés que les Corses, et l'augmentation des prix de l'immobilier due à cette hausse considérable de la demande, l'augmentation des prix de l'immobilier met hors de portée des Corses simplement l'accession à la propriété. Et donc les Corses sont mécaniquement chassés de leur village ou de leur quartier par la force de l'argent, ce qui est évidemment inacceptable. Donc, cette mesure a été proposée par les nationalistes, le statut de résidence, c'est-à-dire avoir 5 ans de résidence à titre permanent, quelles que soient ses origines, 5 ans de résidence dans l'île à titre permanent, pour pouvoir acquérir un bien immobilier. C'est vrai que ce sont les nationalistes qui l'ont proposé, mais ça a été voté par l'Assemblée de Corse avant notre prise de pouvoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très consensuel en Corse et qui n'est pas aujourd'hui défendu seulement par les nationalistes.
Et le statut fiscal de la fiscalité adapté.
Alors, le statut fiscal adapté, alors d'abord, je précise, et c'est toujours bien de le faire, notamment sur les organes de presse extérieurs à la Corse, que nous ne demandons pas des subventions. Nous demandons simplement à pouvoir utiliser les impôts payés par les Corses. Nous demandons le transfert de fiscalité, alors, progressivement, des transferts de fiscalité. Nous en avons d'ailleurs obtenu, s'agissant de la TVA. D'ailleurs, cela a été fait non seulement pour la Corse, mais finalement, même les régions en ont bénéficié, alors que c'était une idée de la Corse et des nationalistes. Et d'ailleurs, les présidents de région nous ont remercié chaleureusement pour avoir eu cette idée. Bon, nous demandons donc un transfert de fiscalité pour faire face à nos besoins à travers nos propres capacités contributives. C'est une démarche de responsabilisation de la collectivité corse, du peuple corse. Et puis, nous demandons, et il est vrai, donc un statut dérogatoire. Et ce statut dérogatoire, il nous est dû simplement par application de l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui engage la France, et qui dit que lorsqu'on est une région d'Europe soit insulaire, soit dépeuplée, soit de montagne, on a droit à un traitement dérogatoire. Et nous sommes à la fois, un seul critère suffirait, mais nous sommes à la fois une région insulaire, une région démographiquement faible, et une montagne. Donc nous avons effectivement le droit de déroger, et c'est pour cela que nous demandons à Paris un statut fiscal et social conforme aux intérêts aujourd'hui de la Corse.
Sur ces deux points, François Tati, président de la communauté d'agglomération de Bastia, vous êtes d'accord avec Jean-Guy Talamoni sur ce statut de résidence spécifique et statut fiscal adapté?
Vous imaginez bien que non, c'est pour ça que vous m'avez invité d'ailleurs. Non, simplement.
Non, mais Jean-Guy Talamoni parlait d'un consensus en Corse à ce propos.
Non. C'était une boutade. Non, simplement, d'abord je voudrais répondre à la dame qui s'inquiétait de son avenir par rapport à sa capacité à acquérir en Corse. Je pense que si nous restons français, ce problème-là ne se pose pas. Je voudrais le lui dire, tout simplement, on peut être corse et français, vivre très bien cette situation sans avoir besoin de chercher à créer des statuts à deux vitesses avec des citoyens qui auraient des droits différents selon qu'ils aient ou non des ancêtres corses. Pour nous, ça n'est pas une solution ni pour régler le problème de la spéculation, ni pour résoudre des situations réelles de conflits de propriété, mais simplement c'est un argument qui est donné par la majorité nationaliste, et effectivement ça a été rejoint par un certain nombre, y compris de mes amis politiques à une certaine époque, qui consistait à faire cette distinction entre les citoyens, parce que figurez-vous que le statut de résident permet, bloque les acquisitions pendant 5 ans pour les personnes qui ne sont pas résidentes en Corse pendant 5 ans, mais ne bloque pas du tout les acquisitions pour des gens qui auraient des origines corse. Ce qui fait qu'en réalité, on ne lutte pas contre la spéculation, puisque c'est la porte ouverte au maintien du système actuel. Deuxièmement, par rapport à la question du statut fiscal. En revanche, là, effectivement, il y a un travail à faire, parce que nous avons effectivement une situation spécifique, et il y a déjà un statut fiscal particulier pour la Corse sur certains points. Et effectivement, il y a un travail à faire, il y a un toilettage à faire, il y a une responsabilisation fiscale sur laquelle on peut travailler. Mais pour, à mon sens, je la vois moins concernant seule la Corse. Et d'ailleurs, Jean-Guy Talamoni vient de le dire. Ça concerne toutes les régions et tous les territoires. Moi, j'ai entendu Emmanuel Macron dire qu'il était pour effectivement une France girondine, et qu'il allait effectivement ouvrir un certain nombre de sujets relatifs aux libertés locales et à l'émancipation de certains territoires. Il faut qu'il le fasse, et il faut qu'il inscrive cette démarche dans son calendrier politique national.
Merci, François Tati. On va aller au standard du téléphone sonne. Un appel de Francis à Sainte. Bonsoir, Francis.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. Moi, j'ai écouté avec attention M. Talamoni, et j'ai un peu entendu ce matin. En fait, moi, mon sentiment en tant que citoyen français, avec mes origines basco-bretonnes et dans le Béarn, j'ai pas de problème de ce côté-là. Je comprends pas tellement où veulent en venir, où veut plutôt en venir M. Talamoni, je vais pas mettre tous les corps dans le même panier. Alors d'un côté, on peut pas bouffer en tous les râteliers. Mon sentiment, c'est où on est français et on a les origines, d'origine béarnaise, corse, pourquoi pas, ou alors on est corse, on largue les amarres. Donc ma question est très simple à M. Talamoni. Est-ce que à plus ou moins long terme, vous pensez que la Corse pourra avoir son drapeau, son armée, Et puis voilà, quoi. Qu'en pensez-vous ? Merci.
Jean-Guy Talamoni, son drapeau, son armée, sa monnaie.
La Corse. La Corse a déjà son drapeau, elle a son hymne, que nous avons chanté d'ailleurs il y a quelques minutes avec aussi les membres de l'opposition, hein, donc au sein de notre hémicycle de façon solennelle. Un hymne qui est reconnu par tout le monde et pas par le seul nationaliste. Cela dit, l'armée, la monnaie, les prérogatives régaliennes sont pour une grande partie déjà transférées à l'Europe. Nous sommes profondément engagés dans la construction de l'Union européenne. Nous avons un engagement européen ancien. Moi-même, il y a 15 ans, j'étais président de la commission des affaires européennes de cette assemblée, alors que j'étais dans l'opposition. Donc, comme nos amis indépendantistes catalans, comme nos amis indépendantistes écossais, nous sommes pour l'Europe, nous sommes pour une autre Europe, c'est vrai. Nous sommes pour qu'elle évolue, qu'elle soit davantage sociale, qu'elle soit davantage équilibrée entre le Nord et le Sud, qu'elle soit moins technocratique, bien sûr, mais nous sommes pour l'Europe. Donc, effectivement, nous ne sommes pas contre des transferts de prérogatives régaliennes à l'Europe, et c'est déjà chose faite, notamment pour la monnaie, ça va évoluer également pour l'armée, et c'est dans cette perspective que nous nous situons.
Cyril Graziani, vous êtes aux côtés de Jean-Guy Talamoni, vous voulez lui poser une question ?
Oui, Cyril. Jean-Guy Talamoni, vous parlez, vous revendiquez, vous vous agitez beaucoup, mais pour l'instant, Paris ne réagit pas, Emmanuel Macron ne réagit pas. Il sera à Ajaccio le 6 février, et il a choisi cette date pour une raison, c'est le 20e anniversaire de l'assassinat du préfet Erignac. Ça n'est pas anodin.
Oui, alors nous parlons, mais nous ne nous agitons pas, nous ne sommes pas des agités, et d'ailleurs, nous n'avons aucune raison de l'être, nous sommes extrêmement sereins compte tenu de la force que nous ont donné les Corses à travers leur suffrage, puisque je vous rappelle quand même que nous avons eu la majorité absolue, et donc cela nous permet d'être sereins, y compris au moment de s'asseoir à une table de discussion avec Paris. Les discussions n'ont pas commencé, nous voulons être positifs, nous ne voulons pas faire de procès d'intention à nos interlocuteurs, à Madame Gouraud, donc qui a été choisie par le gouvernement pour être Madame Corse, et non plus, nous ne voulons pas faire de procès d'intention aux autres membres du gouvernement que nous allons rencontrer. Le Premier ministre, d'ailleurs, c'est déjà prévu. Nous allons nous asseoir avec la volonté de parvenir à un accord. Mais encore une fois, il est très tôt aujourd'hui pour faire des pronostics à cet égard. Nous avons vraiment, vraiment la volonté de dialoguer et de dialoguer de la manière la plus loyale qui soit.
Alors, au standard, un dernier appel. Cédric à Lille. Bonsoir Cédric. Soyez pas trop long, on approche de la fin de l'émission.
Je ne vais pas être trop long, juste une question. Puisque tout le monde veut l'indépendance, bah faisons le référendum maintenant, à l'instant T. Larguons les amarres si le référendum est positif. Allons-y. Pourquoi ne le faisons-nous pas maintenant ?
Jean-Guy Talamoni.
Oui, alors d'abord parce que vous nous excuserez, mais c'est quand même, je crois que les Corses ont leur mot à dire hein, sur le moment d'organiser le référendum. S'agissant de notre majorité, nous avons un accord de mandature, le référendum ne sera pas organisé dans les 10 ans qui viennent, parce que nous pensons que le moment n'est pas venu, parce que nous pensons que les Corses aujourd'hui ne voteraient pas pour l'indépendance de toute façon, parce que les Corses aujourd'hui ne sont pas encore assurés d'une certaine stabilité sur le plan matériel, parce que la Corse est potentiellement très riche, mais elle a été appauvrie par les politiques qui ont été menées, hein. Je vous dirais simplement que pendant une centaine d'années, on nous a appliqué une loi douanière qui consistait à taxer toutes les exportations et à détaxer toutes les importations. C'est-à-dire, c'était un traitement encore plus défavorable que celui que la France appliquait à ses colonies officielles. Bien, je ferme la parenthèse et je dis que pendant ces 10 ans, nous allons chercher à enrichir la Corse matériellement pour que les Corses soient parfaitement libres de choisir leur destin. Et encore une fois, chacun respectera le choix des Corses par le suffrage universel. Que l'on soit indépendantiste ou qu'on ne le soit pas, eh bien chacun aura son mot à dire et les Corses trancheront par le vote le moment venu et le moment où les Corses le décideront.
Jérôme Fourquet, ce dossier Corse, c'est un dossier très sensible pour Emmanuel Macron sur lequel il ne s'est pas tellement exprimé hein, pour l'instant.
Il s'est exprimé, mais avec une certaine ambiguïté. Oui, oui. C'est-à-dire que pendant la campagne électorale, quand il est venu sur l'île, il avait proposé un pacte girondin à la Corse, donc allant dans le sens de davantage d'autonomie. Ensuite, au moment de l'élection territoriale en décembre, il y a eu manifestement un certain nombre de contacts ou de tractations qui ont été prises pour essayer de voir comment, entre la liste de La République En Marche et les autres listes non nationalistes, il y avait une possibilité de faire une espèce de front républicain pour essayer de barrer la route aux nationalistes. Vu les scores du premier tour, il n'en a pas été question. Et puis, on voit aussi que face à cette posture relative ouverture, On a eu une attitude très carrée d'Emmanuel Macron dans la crise catalane, hein, qui a apporté son plein et entier soutien à Madrid. Et puis, une petite phrase d'Emmanuel Macron qui expliquait à des collégiens au moment de la commémoration de l'édit, de l'anniversaire de l'édit de Villers-Cotterêts, que la France était construite au travers de sa langue et qu'avant cet édit, on parlait le patois en Corse. Et donc, ça augure pas forcément très bien des discussions à venir sur la question de la co-officialité de la langue. Donc c'est effectivement un dossier qui est sensible. Il s'inscrit aussi dans la suite avec ce qui va se passer en Nouvelle-Calédonie et il va falloir qu'effectivement Emmanuel Macron dévoile un certain nombre de positions.
Merci à nos invités, c'était le Téléphone Sonne. Bonsoir.